Le jour où elle va mourir, ma mère se réveille découragée. Depuis 3 semaines, elle scrute les chiffres de fréquentation du centre de yoga qu'elle a ouvert à Lyon. L'affaire ne marche pas aussi bien qu'espéré. Et nous avons beau lui répéter, mon père, ma sœur et moi, qu'une clientèle met du temps à se constituer, rien n'y fait. Elle a le moral dans les chaussettes. Pourtant, à 54 ans, elle a tout pour être comblée. Elle est en haut de la vague, comme ses proches diront 2 semaines plus tard, le jour de sa crémation, qui aura lieu à 5 kilomètres à peine de cette grande table où elle prend son dernier petit déjeuner. Sa fille vit en Colombie avec son mari, son fils termine ses études et elle a prévu de partir en vacances au Liban. Un an plus tôt, elle a temporairement abandonné son métier d'architecte pour se consacrer au yoga, une passion qui l'a accompagnée toute sa vie. Elle en a découvert la pratique en Inde à la fin des années 70 et en a fait une hygiène de vie. Une demi-heure chaque matin, des séjours dans des centres spécialisés et une formation à l'école nationale pour obtenir le titre de professeur. Son local est situé au bas des pentes du quartier de la Croix-Rousse, à quelques rues de la place des Terreaux et de l'Hôtel de Ville. Un quartier dont la gentrification promet une clientèle cible dans une ville où il n'existe aucun centre de yoga similaire, alors que la pratique explose. Pendant des mois, ma mère a imaginé l'école, pensé son agencement, dessiné le logo, recruté des professeurs, établi une grille de cours à la carte. Ce 6 juin 2012, elle se rend à vélo jusqu'à l'école de yoga, un trajet de 10 minutes le long de la Saône. La journée s'annonce identique à celle des 3 semaines précédentes. Elle allumera, préparera un café, accueillera les premiers professeurs. Derrière le petit bureau de l'entrée, elle compilera les tâches administratives à abattre dans les prochains jours, répondra à quelques mails, tandis que dans la grande salle, des professeurs enchaîneront les postures de vinyasa avec les premiers adhérents. Les élèves remettront leurs chaussures en repartant et la salueront d'un « à la semaine prochaine » ou, plus rare, d'un « à demain ». Cet après-midi de juin est radieuse. 23 degrés et aucun nuage pour présager que c'est ce jour-là que le destin va basculer. Elle traverse la place des Terreaux, une vaste esplanade piétonne au pied de l'hôtel de ville, que domine une statue de déesse au sein nu, tenant en bride des chevaux rugissants. La place des Terreaux marque la frontière entre les rues bourgeoises de la Presqu'île et le quartier de la Croix-Rousse, un entrelac de rues pentues et sinueuses qui montent vers le plateau du même nom. L'entrée de la Croix-Rousse est signalée par ce qui est devenu le marqueur immuable de tout centre-ville populaire. Des kebabs, un bar à chicha, des pubs irlandais, des salons de coiffure à néon blanc qui font la coupe à moins de 15 euros. L'une des rues qui remonte les pentes depuis la place des Terreaux s'appelle la rue Romarin. Une rue typique de la Croix-Rousse, étroite, bordée d'immeubles de 5 étages en pierre. Alors qu'elle s'y engage, ma mère passe devant les fast-foods à l'angle de la place, qui attire à toute heure de la journée de petits groupes de jeunes du quartier. Elle porte un trench coat court en toile beige, qui flotte légèrement derrière elle quand elle pédale. Dans moins de 15 minutes, un sapeur-pompier accroupi à ses côtés le déchirera à coups de ciseaux pour accéder aux parties vitales. Mais au moment où elle s'engage rue Romarin, personne n'en a idée. C'est le début de la pente. À peine 50 mètres à gravir avant de tourner à droite et de se laisser glisser vers le centre de yoga. À peine 50 mètres. Au même moment, à quelques rues de là, un garçon de 18 ans, Saïd, enfourche une motocross KTM de 654 cm3. Un bolide que les sites spécialisés décrivent comme conçu à base de testostérone et d'arsouille, et dont ils qualifient le design de « furieux ». 160 kilos de ferraille et de mécanique assemblés pour aller vite, faire du bruit et attirer les regards. La moto appartient à un copain de Saïd. D'après l'enquête de police qui sera diligentée par le commissariat central de Lyon, celui-ci a rencontré Saïd devant un bar de la place Colbert, un peu plus haut, et a d'abord refusé de la lui prêter. Saïd n'a pas le permis moto et a fumé du cannabis peu de temps auparavant. Tout juste majeur, il a déjà été condamné dans plusieurs affaires. Il sait qu'il doit se tenir à carreau. La bande aime défier les limites, mais quand même. Saïd insiste, parce que c'est un truc de ouf, cette moto. Et son ami cède. La particularité de la moto, et c'est le principal argument de vente des concessionnaires, est qu'elle peut passer de l'arrêt à 100 km/h en quelques secondes. Beaucoup plus rapidement que n'importe quelle voiture. Quand le feu passe au vert, les automobilistes n'ont pas le temps d'enclencher la première que la moto a déjà décollée. Saïd met les gaz, faisant cracher au moteur son grincement de tronçonneuse qui suscite l'exaspération des piétons. Fait un tour du quartier et prend de la vitesse dans la rue qui longe les murs de l'hôtel de ville. Saïd tourne dans la petite rue Romarin, accélère pour monter la côte et se retrouve à 80 km/h. Grisé, d'un coup de rein, il soulève la KTM et se cabre en roue arrière. Il a transformé la moto en arme. La pétarade fait sursauter les passants qui se serrent instinctivement contre les immeubles, la main agrippée au col. La collision a lieu à 17h13. Quand mon père refait le film de la soirée qu'il a vécue, sa voix baisse d'une octave. Il récite le déroulé du 6 juin 2012 comme une étrange incantation, répétée à beaucoup de monde depuis 13 ans, mais qui réclame toujours la même concentration. Je m'étais installé devant la télé avec le dîner. Il y avait un documentaire sur De Gaulle sur Arte. Ta mère avait un dîner à l'extérieur. Je ne me suis pas inquiété, elle devait rentrer tard. Vers 22h, deux policiers en uniforme sonnent à l'interphone de l'immeuble. « Vous êtes bien le mari de madame ?» Les explications sont sommaires, les détails vagues, l'exécution rapide. Mon père se rend à l'hôpital Édouard Herriot dans l'est de Lyon. Au détour d'un couloir, il aperçoit ma mère allongée sur un brancard poussé par des internes qui l'emmènent pour un nouveau scanner. Elle est inconsciente. La moto l'a percutée à l'arrière du crâne et le choc a provoqué un œdème cérébral suffisamment grave pour que le neurochirurgien écarte tout espoir. Écoutez, c'est terrible d'avoir cette conversation, monsieur. Mais votre femme n'est pas opérable. Si j'opère, j'enlève la moitié du cerveau. Mon père chancelle, au moment où deux sœurs de ma mère qui vivent à Lyon le rejoignent et le prennent dans leurs bras. Mon père comprend que c'est terminé, que sa femme, qu'il aime depuis plus de 30 ans, va mourir. Il s'isole pour passer les deux coups de téléphone qu'il repousse depuis son arrivée à l'hôpital. Il appelle d'abord ma sœur. À l'autre bout du fil et du monde, elle hurle. Puis il enchaîne avec moi. À 1h du matin, ma mère est transférée au centre neurologique du groupement hospitalier Est, nouvelle étape sur le chemin qui la conduira rapidement à la mort. Épuisé et impuissant, mon père rentre chez lui, chez eux, dans le silence et la solitude de la nuit. Depuis les fenêtres du salon, il regarde la Saône qui coule, noire et indifférente, avale un whisky et s'endort pour quelques heures. La lueur bleue de l'écran a éclairé le plafond de la chambre avant que ne résonne le Nokia Tune, un air de guitare conçu pour être reconnaissable à la première note. Le genre de mélodie annonciatrice de catastrophe lorsqu'elle sonne au milieu de la nuit, quand elle ne devrait pas. J'ai 21 ans et je vis à Bombay, où je travaille auprès du consul général de France. Ce 7 juin 2012, à 3h18 du matin, 23h48 heure française, j'avais noté ces heures dans un carnet à l'époque. Mon cerveau, en sommeil, est encore englué par la bière avalée la veille, en pinte dans un bar hors de prix et sans charme. Je me rendors, mais la sonnerie du téléphone insiste. « Paul, ta mère a eu un très grave accident. Elle est entre la vie et la mort. Il faut que tu rentres à Lyon au plus vite. » L'échange dure quelques secondes. Le temps de me lever d'un bond et de reprendre mes esprits. Un mec lui a foncé dessus à moto, apparemment, j'en sais pas plus. Elle est à l'hôpital, dans le coma. Ses chances de survie sont très faibles. L'appel se fait télégramme, clinique, précis, sans un mot qui dépasse, pour prioriser la logistique et tenir l'émotion en respect. Quelques affaires jetées en vrac dans un sac à dos, je descends à pas de loup au rez-de-chaussée de la petite maison que j'occupe dans un des rares quartiers paisibles de la ville. Dehors, pas un bruit. Le monde vient d'éclater, et et la nuit s'en fout. Le corps tendu par l'urgence, je réveille un chauffeur de taxi qui dort dans son habitacle et qui accepte de m'emmener à l'aéroport. À l'escale, quelque part dans un pays du Golfe, un dernier appel précise la gravité de ce qui est en train de se passer. Paul, il est possible qu'elle décède quand tu seras dans l'avion. Roissy Charles de Gaulle, terminal 2F, gare TGV, Lyon-Pardieu. Il fait nuit. Mon père attend à la sortie de la gare sous une pluie biblique. Ma sœur vient d'arriver à Lyon et se tient à ses côtés. Elle a reçu le même coup de téléphone que moi, quand il faisait encore jour sur son fuseau horaire. On se réunit dans la cuisine de l'appartement familial, à 3 au lieu de 4, 24 heures après la collision. La famille idéale, épargnée jusque-là par les coups du sort, se retrouve mise KO debout par une catastrophe qui échappe totalement à son monde. Le récit que nous fait mon père de l'enchaînement de la journée est ponctué de « c'est pas possible », murmuré la main devant la bouche. Une réaction spontanée qui indique qu'il est inconcevable qu'une histoire pareille nous arrive à nous. Le mal ne peut pas nous frapper, surtout celui-là. Que notre mère ait été écrasée par un délinquant récidiviste est invraisemblable. Pour la première fois, la vie nous tabasse, pour de vrai, avec poing dans la gueule et coup de pied dans les côtes avant de partir. La suite des événements est rapide. Les chirurgiens estiment que les chances de survie de ma mère passent sous le seuil des 20%. Le choc a été si violent que les lésions au cerveau sont irréversibles. Si par miracle elle se réveillait, ce serait avec de graves séquelles neurologiques. Au bloc de soins intensifs de l'hôpital de Bron, elle est allongée sous un suaire de polycoton pastel, dans une pièce de science-fiction que baigne l'odeur cotonneuse de l'éther. Je serre sa main et lui murmure quelques mots, dans un bruit de pompe, de bip, de sonde qui régule les mouvements de sa poitrine. Un tube en plastique sort de sa bouche, des intraveineuses de ses bras, et le compte-rendu informe qu'elle est Glasgow 3, le niveau 3 de l'échelle de Glasgow, qui mesure l'état d'éveil d'une personne, correspond au coma le plus profond ou à la mort. En termes plus détaillés, cela donne volumineuse contusion hémorragique frontotemporale droite et hématome soudural aigu hémisphérique compressif, œdème cérébral diffus et hydrocéphalie aiguë responsable d'une hypertension intracrânienne aiguë et d'un engagement cérébral avec risque vital à court terme. Ainsi gisante, plongée dans son insondable sommeil artificiel duquel personne ne sait dire si elle entend nos voix, on ne l'a jamais vue aussi seule. Sur l'autre rive, personne ne l'attend. Ses parents sont vivants, son mari, ses enfants, ses frères et sœurs aussi. Les médecins qui patientent à la sortie du bloc ont une autre priorité. Ils expliquent que sa mort pourrait sauver des vies et nous tendent des prospectus qui précisent les avantages et modalités du don d'organes. Il y a moins de 48 heures, je me saoulais dans un bar de Bombay et je me retrouve à donner mon avis sur l'organe de ma mère que j'accepterais de donner. Poumons, foie et reins seront prélevés et un courrier de l'hôpital nous confirmera quelques semaines plus tard que 3 personnes ont eu la vie sauve grâce à ces transplantations. C'est irréel, convient-on de déclarer. Avec une soudaineté scandaleuse, la vie vient d'ouvrir une trappe sur laquelle nous dansions, sans personne auprès de qui déposer réclamation. 3 jours plus tard, un coup de téléphone de l'hôpital nous prévient. Le cerveau réagit mal. La pression augmente, le cœur ralentit. Il faut que vous veniez lui dire adieu. Une semaine après avoir été percutée, ma mère est officiellement déclarée décédée. Pourquoi raconter ça? Une décennie a passé depuis la collision. La vie a continué, comme elle continue pour tous ceux qui perdent des proches. Sauf qu'en ces 10 années, il s'est passé plusieurs choses. L'incendiaire dont j'avais suivi la campagne présidentielle n'a certes pas franchi la barre du premier tour, mais a tout de même convaincu près de 2,5 millions de Français de l'imaginer président de la République. 2 ans plus tard, 11 millions de personnes porteront un parti identique aux portes du pouvoir, avec l'illusoire promesse d'en finir avec l'insécurité et l'immigration. Et cette campagne a semé en moi une pensée qui vire presque à l'obsession. La mort de ma mère illustre parfaitement ce que le discours d'extrême droite dénonce, comme si cette tragédie, ce deuil douloureux et accidentellement prématuré, revêtait soudain une dimension politique, 10 ans après les faits avec une traduction électorale concrète. Des gens votaient, et en masse, parce qu'ils entendaient des histoires similaires à celles de ma mère, et que ces drames étaient quotidiennement utilisés pour transformer le réel en généralité. En 2012, les filets médiatiques qui raclent en eau profonde n'avaient pas remonté cette histoire à la surface. Un communicant expert en storytelling n'aurait pourtant pas trouvé meilleur récit pour son candidat. La correspondance entre mon vécu et son fantasme politique n'a pas cessé de me hanter depuis cette campagne présidentielle, où il fut martelé que l'immigration provoquait de la délinquance et qu'il était urgent d'en protéger les Français. Il fallait le reconnaître. L'extrême droite avait mis le doigt, avec talent, sur cette confusion et cette colère que j'avais intimement vécue. Après la mort de ma mère, la douleur s'est installée, se manifestant par vagues, en agios sporadiques dont personne n'avait prévenu de la ponction. Sous cette fine glace de chagrin sur laquelle je cheminais à 21 ans, dormaient des courants de ressentiment, de haine aussi parfois. Que la vie de ma mère ait été brutalement interrompue par un tel concentré de laideur, de pétrole, de métal et de virilité bestiale paraissait invraisemblable. Je cuvais une colère qui transformait mon deuil en aigreur, et la figure du motard me narguait à chaque coin de rue. Dans les mois qui suivirent la collision, j'avais beau tenir la violence à distance, elle se manifestait en rêve, en fantasme solitaire. Je m'imaginais passer devant un groupe de jeunes dealers, zonant en jogging basket, et dégainer un colt pour le planter sur le front du premier venu, pour contempler la terreur dans ses yeux, ne serait-ce que quelques secondes. Ce genre de choses, que l'on rapporte piteusement chez soi, se sentant sale de les avoir ne serait-ce que fantasmées, avant de s'endormir coupable, jurant qu'on ne nous y reprendra plus. La colère, quand elle commence à nous envahir, est un plaisir narcotique. Et l'on a beau croire au droit et à sa supériorité sur la vengeance, l'instinct du talion sommeille en chacun de nous. Il me fallut cette campagne présidentielle et l'hystérie des débats sur la délinquance et l'immigration pour faire quelque chose que j'avais esquivé pendant 10 ans. Comprendre ce qui s'était réellement passé rue Romarin, ce 6 juin 2012, et chercher à en savoir plus sur ce motard. Car au fond, ma connaissance de l'événement était toujours restée superficielle. Je me décidai à décortiquer le dossier d'instruction judiciaire qui dormait chez l'avocat de ma famille. Regarder la violence en face, ce serait embrasser l'intranquillité de la compréhension. Et aussi, une manière imparfaite de me tenir au chevet de ma mère. Il y avait l'intuition que ce que j'avais vécu ne se limitait pas à la perte d'un parent. Deux destins s'étaient percutés. Deux destins parallèles qui n'étaient pas censés se croiser et qui racontaient chacun un morceau de l'histoire récente du pays, de l'évolution de sa société, des fractures qui la travaillaient. Fin 2022. À quelques jours de Noël, je me retrouve au pied d'un bâtiment bardé de plaques de cuivre sur un boulevard cossu qui fend l'Est lyonnais. Un des nombreux immeubles haussmanniens de ce quartier où les bonnes familles du cru occupent de confortables appartements avec balcons en fer forgé. Quelques jours avant ma venue, l'avocat a accepté de ressortir le dossier d'instruction. Une démarche qu'il a effectuée à ses frais, a-t-il pris soin de préciser dans son message. Mais ce soir de décembre, la poignée de main est chaleureuse. Notre dernière rencontre date du procès, fin 2013, où il s'était livré à une plaidoirie lyrique qui insistait sur la moralité exemplaire de ma famille pour convaincre le tribunal de punir sévèrement le jeune motard. L'avocat a la soixantaine, une barbe de 3 jours, les cheveux mi-longs plaqués en arrière et des bracelets au poignet. Son cabinet est modeste, mais il est idéalement situé, à quelques rues du tribunal judiciaire. « Installez-vous ici. » Il me fait entrer dans une petite salle où il a mis à ma disposition une épaisse pile de feuilles rangées dans une chemise bleue. « Tout est là », assène-t-il avec gravité. « J'ai retiré les photos les plus difficiles. Faites-moi confiance, c'est mieux comme ça. Je suis à côté si besoin. » La porte se referme sur un silence de sépulcre, et ce dossier ouvert qui raconte en détail les circonstances de la mort de ma mère. Pourquoi avoir attendu 10 ans? Pour la première fois, je vais déplier cet accident et en explorer la moindre cavité, pour vivre en paix et non plus en prisonnier de l'événement. Il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut désosser. La tragédie est racontée avec une méticuleuse précision administrative. Les procès-verbaux d'audition des témoins, l'ordonnance de renvoi, les rapports médicaux, les réquisitions judiciaires, l'interrogatoire de Saïd à l'hôpital, ses diverses tentatives pour se dédouaner, l'évocation de son contrôle judiciaire qui ne fut jamais respecté, les courriers entre l'administration pénitentiaire et le juge d'application des peines, quelques bribes d'informations personnelles sur son profil. Toutes les traces d'une machinerie policière et judiciaire qui s'est mise en branle pour établir des responsabilités, leur donner une traduction pénale, consigner le tout, puis l'archiver quelque part, l'oublier et passer au suivant, après avoir fait rentrer aux chausse-pieds des sentiments dans des formulaires. Je retourne souvent rue Romarin. Le rembobinage névrotique doit être le corollaire inévitable d'une mort aussi brutale. On se met à ausculter les moindres détails des murs, témoins froids de la catastrophe, qui sont devenus le décor du dénouement final, et à visualiser le drame comme depuis un banc de montage, à glisser la souris au début du rush, au début de la rue, pour tenter d'identifier le centimètre carré de goudron, la seconde précise où la trajectoire aurait pu être déviée et le passage de cette moto ne causait à ma mère qu'une sacrée frayeur. Il est coutume d'entendre que ce genre de drame endurcit, rend plus fort face à l'adversité. En réalité, c'est presque l'inverse qui se produit. Si l'épreuve crée une armure, c'est une armure qui engourdit les mouvements davantage qu'elle ne les renforce. On est pris dans un formol qui entrave la marche de l'existence et qui ramène toujours au même endroit. À cette petite rue, où tout a pris fin. Et l'on se retrouve à se poser les mêmes questions pendant 10 ans, à imaginer les mêmes scénarios de si seulement, l'esprit sclérosé par un ressentiment qui se manifeste en rechute. Exactement comme une crise de paludisme peut survenir des années après que l'on a été piqué par le mauvais moustique. Quand je lis le déroulé de cette minute fatidique, j'ai envie de cliquer sur pause, de supplier ma mère de rouler un peu plus à droite, juste quelques centimètres. J'épluche le dossier comme s'il y avait une morale à débusquer entre 2 procès-verbaux. Car il ne s'agit pas tout à fait d'un accident. Un accident, c'est quand on rate un virage et qu'on termine dans un platane. On peut en conclure à la rigueur qu'il faut faire attention sur la route, éviter de boire avant de prendre le volant ou faire des pauses régulières. La collision qui a tué ma mère ne relève pas de la même catégorie. Alors, quelle attitude adopter? Accepter que ce n'est qu'un coup du sort? Qu'elle circulait au mauvais endroit, au mauvais moment, ou bien en tirer des conclusions plus générales. À défaut de trancher, essayons de comprendre comment le choc a été rendu possible. La violence qui a frappé ma famille possède une généalogie qui nous raconte, collectivement. Elle a été commise par un jeune garçon dont la dérive est le produit d'une époque où les filets de la société n'accrochent plus, ne rattrapent plus, et où l'obsession de soi permet tout. Un jeune qui tue en faisant une roue arrière à moto, ça n'existait pas il y a 30 ans. Aujourd'hui, cela se produit toutes les semaines. La presse régionale déborde de ces accidents et les sites d'extrême droite en raffolent. Le jeune en roue arrière est devenu un archétype culturel à qui l'on associe l'expression flatteuse de rodéo urbain. Presque une banalité au sujet de laquelle peu de monde s'interroge. Une citation me revient souvent. Que j'ai toujours attribué à Michel Foucault sans jamais en retrouver la source. Le fait divers est une sécrétion du temps.